C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
15-29, OK. C'est la grosse histoire du jour. Et si vous avez lu la presse ce matin, vous avez sans doute avalé vos céréales de travers en lisant l'enquête de ma collègue Isabelle Haché. C'est l'histoire d'Océane. Là, je vais résumer. Océane a 18 ans quand elle est violée par son coloc. Elle devient enceinte et la jeune femme décide de garder l'enfant. Le coloc, lui, est remis en liberté, mais il a commis, dans l'intervalle, là, trois autres agressions contre des femmes après le viol de sa coloc. Le gars a été emprisonné. Son nom même était ajouté au registre des délinquants sexuels. Déjà, l'histoire est épouvantable. Mais il y a une couche supplémentaire d'horreur parce que, du fond de sa prison, le gars veut maintenant être reconnu comme étant le père de l'enfant d'Océane, de la jeune femme qui l'a violée. Et c'est ce qu'Isabelle raconte dans la presse ce matin, les procédures judiciaires qui sont entreprises par le violeur pour être reconnu comme père. L'affaire suit son cours présentement devant les tribunaux. Et il y a une juge qui a ordonné un prélèvement d'ADN de l'enfant qui a 2 ans pour déterminer officiellement si son père est bel et bien le violeur. La juge n'a pas fait gaffe, hein, je le souligne là. Elle n'a pas erré. Le droit, semble-t-il, ne lui donnait pas le choix à ce stade-ci des procédures. Et on pense là que le père après va vouloir des droits de visite, va souhaiter obtenir un rôle dans la vie de cet enfant-là. On va parler de cette affaire avec Maître Alain Roy, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Professeur Roy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Je souligne là que vous êtes, c'est pas banal, là, vous êtes l'auteur d'un rapport sur la réforme du droit de la famille qui a été piloté par le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette. Le premier volet était adopté au mois de juin et vous êtes aussi conseiller du ministre Simon-Jolin Barrette. Première question, est-ce que le ministre vous a appelé ce matin après avoir lu sa presse?
Ce sont des questions qui sont éminemment complexes. Et le volet filiation
Mais sérieusement, comme vous êtes son conseiller puis que vous êtes un des grands experts du droit familial au Québec, est-ce que le ministre vous a appelé pour vous demander ce que vous en pensiez un matin?
Ben, je parlais à son attaché politique, à son conseiller politique, effectivement.
OK, puis qu'est-ce qu'on sait de la façon dont le ministre Jolin Barrette a réagi en lisant ça?
Écoutez, il y a déjà des réactions, là. Si ma mémoire est bonne, il me semble que dans la presse, là, on parle de la réaction du ministre. Mm. La réaction des autres parlementaires. Mais il faut placer cette question-là dans un contexte plus large. Vous savez, en 1980, il y a un article qui est introduit dans le Code civil sur l'égalité des filiations. Autrefois, on modulait les effets de la filiation en fonction des circonstances de la naissance de l'enfant. Mmh. Alors, on privait, par exemple, l'enfant d'une pension alimentaire à l'égard de son père s'il était né d'un acte d'inceste. On est resté un peu pris avec ce repère-là. Et ce qui explique ce pourquoi on n'a pas réfléchi au cours des dernières décennies à cette idée de ne pas permettre la filiation lorsque l'enfant est issu d'un acte de violence, comme l'inceste, par exemple. Aujourd'hui, en 2022, on est beaucoup plus sensible aux aspects identitaires de la filiation. La filiation, autrefois, on voyait ça comme un vecteur de droit et d'obligation, et on voulait surtout pas priver l'enfant de droit à l'égard de son parent, en raison justement d'actes dont il n'était pas responsable. Alors, on voyait ça comme tout simplement une institution porteuse de droits et de privilèges au profit de l'enfant. Aujourd'hui, non. C'est identitaire, c'est symboliquement puissant, la filiation. Et il y a personne qui va nous faire croire que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir sur son acte de naissance le nom d'un homme qui est à l'origine de sa conception violente, le nom d'un homme qui a violé la mère.
OK.
On dissocie vraiment les deux et on peut et on doit dissocier les deux en 2022. On doit penser ou on doit envisager le fait de bloquer l'établissement de la filiation lorsque, justement, la conception est issue ou est le résultat d'un viol, tout en ne faisant pas de cadeau à l'homme en question, en le laissant ou en lui laissant les obligations qui vont normalement avec le statut parental, comme une obligation de soutien financier.
OK. Si je vous comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'on ne devrait pas permettre que qu'un violeur du fond de sa prison écœure une mère comme c'est le cas d'Océane présentement, tel que raconté dans la presse, mais on devrait l'obliger à payer une pension alimentaire si la mère décide de garder l'enfant. C'est ça?
Ben absolument.
OK.
Ça, c'est ce que moi, je pense.
OK, mais une fois que ça s'est dit, Alain Roy, Combien de temps ça va prendre avant que le législateur, disons, casse cet angle mort qui permet à un violeur d'écœurer sa victime, la mère de l'enfant, née du fruit du viol?
Ben, ce seront des questions qui vont forcément être à l'ordre du jour législatif, là, hein, à voir à quel point ce jugement-là fait réagir. Je pense bien que la réflexion va devoir se faire et très, très rapidement, mais je tiens à souligner que en juin 2022, donc il y a quelques semaines seulement, il y a des avancées très significatives en matière de violence conjugale et familiale qui ont été apportées dans le Code civil. Dans un premier temps, il est maintenant établi que le concept de l'intérêt de l'enfant doit être évalué, notamment en fonction de la violence familiale qui inclut la violence conjugale. Parce que je vous rappellerai que certains juges avaient une interprétation très étroite de la violence familiale et considéraient qu'on pouvait très bien être un mauvais conjoint, mais un bon parent. Ça ne pourra plus être interprété de cette façon-là. D'autre part, on permet la déchéance de l'autorité parentale depuis longtemps dans le Code civil sur la preuve d'un motif grave et du fait que c'est dans l'intérêt de l'enfant. En juin 2002, on a inscrit formellement dans le Code civil que la déchéance devait être prononcé lorsqu'il y a violence familiale, incluant violence conjugale. Alors, dans cette histoire-là, faut quand même comprendre que même si l'homme se voit reconnaître père, il va être automatiquement déchu de son autorité parentale et il n'y aura pas de droit d'accès. Il n'y aura pas la possibilité d'entrer en relation avec cet enfant-là. Et quant au changement de nom, c'est le même principe, là. On a dissocié le nom de la filiation. C'est pas parce qu'on est le géniteur ou même le père légal de l'enfant qu'on a le droit d'avoir son nom sur son acte de naissance.
Là-dessus, professeur Roy, vous avez tout à fait raison. Ça a été salué, d'ailleurs, au mois de juin quand ça a été adopté. Là, je pense que c'était le projet de loi numéro 2. Mais ceci étant dit, dans le cas qui nous occupe, comprenez, là, je suis comme à peu près tout le monde qui a lu ça aujourd'hui, consterné, en colère aussi. Est-ce que on peut avoir des amendements législatifs rétroactifs qui pourraient couper l'herbe sous le pied de ce gars-là?
Ben, rétroactif. Écoutez, dans la mesure où il a déjà introduit son recours, normalement, quand on adopte une loi, ben, ça peut s'appliquer aux situations en cours, mais s'il a déjà introduit son recours, ça serait assez inusité, mais bon, il n'y a rien d'impossible, hein? Le législateur peut tout faire. Le législateur a la possibilité d'adopter les règles qui lui convient, qui convient aux besoins sociaux, à sa discrétion. Il n'y a pas de limitation, mais je dirais que ce serait pas très orthodoxe, mais ce serait tout à fait envisageable. Surtout dans un cas qui relève de l'ordre public comme celui-là. Surtout dans un cas où ça répugne à la morale de considérer que cette personne-là puisse éventuellement se retrouver sur l'acte de naissance de l'enfant.
Professeur Roy, vous êtes un des grands spécialistes au Québec du droit de la famille. Je me demandais, un cas semblable, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ou c'est une première?
Ben, j'ai jamais entendu ça, moi, un père qui réclame la filiation à la suite de son acte barbare, là, à la suite d'un viol. Non, j'ai jamais vu ça. Dernière chose, M. Lagacé, là, peut-être pas dernière chose, là, c'est vous qui êtes maître de l'horaire. On parle beaucoup de droit à la connaissance des origines et on semble confondre ça avec la filiation. Et là, encore une fois, il faut faire des nuances, il faut faire des distinctions. La connaissance des origines, c'est une chose. Et en juin 2002, on a consacré dans la Charte québécoise des droits et libertés, ce qui n'est pas majeur, ce qui n'est pas mineur, le droit de toute personne de connaître ses origines. Cet enfant-là, un jour, pourrait peut-être vouloir connaître ses origines, même si elles sont horribles. Mm-hmm. Et je ne pense pas qu'on puisse l'en priver si tant est qu'il le souhaite. On ne peut pas le forcer. Cela étant dit, ce n'est pas parce que l'enfant connaît ses origines qu'automatiquement, il y a une filiation qui va être établie. Et en ce sens-là, il faut faire la distinction parce que les origines biologiques ne correspondent pas à la filiation dans tous les cas et vice-versa. Par exemple, en matière d'adoption, c'est pas parce que je retrouve mes parents d'origine que ça va réétablir un lien de filiation avec eux. Alors, faut faire attention pour ne pas confondre la filiation et le droit à la connaissance des origines qui vient tout juste d'être consacré. Il faudrait pas que les gens pensent que cette modification-là vient, au contraire, consolider les prétentions de ce monsieur-là.
On se comprend, vous faites bien de faire la nuance, professeur Roy, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on a clairement le cas d'un homme, disons, ce violeur-là, qui est un peu désaxé et qui utilise un angle mort du système pour continuer à écœurer sa victime.
Ben, en fait, là, on a fait un grand pas en matière d'autorité parentale. Et dans le passé, puis d'ailleurs, c'est l'opinion encore de plusieurs de mes collègues, dans le passé, la filiation était vue comme imperméable à toute forme d'actes, de circonstances là, qui entourent la naissance. Je pense qu'il faut franchir un pas. C'est pas parce que la filiation est dépourvue d'autorité parentale que ça n'a pas un impact sur l'enfant. Aujourd'hui, on reconnaît que c'est un vecteur d'identité extrêmement puissant et qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Même si ce bonhomme-là exerce aucun droit parentaux, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant que son nom soit sur son acte de naissance et qu'il soit reconnu comme étant le père légal.
Merci d'avoir été avec nous, professeur Roy. Bonne journée.
Bonne journée.
Alain Roy est professeur de droit familial à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et aussi conseiller spécial en matière de réforme du droit familial auprès du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Donc, la fonderie Horn, c'est à Rouyn-Noranda. C'est une histoire de pollution qui était bien connue des gens de l'Abitibi, pas mal moins connue, disons, ailleurs au Québec. Ça a changé cet été parce qu'on a pu quantifier à quel point l'arsenic qui est généré par la fonderie s'incruste pas seulement dans l'air, pas seulement dans l'environnement, mais dans le corps des gens de Rouyn et des environs. Il y a des taux de présence de contaminants alarmants chez les gens de Rouyn. Il y a des cancers qui seraient plus présents aussi. On va parler de tout ça avec la députée solidaire de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. Madame Lessard-Terrien, bonjour.
Bonjour, Patrice Lagacé.
Donc, on va arriver là tantôt au point de presse du ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Mais juste avant, là, je veux que vous nous fassiez, en tant que fille de l'Abitibi, un cours de, disons, une fonderie Horn 101 pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait à la fonderie?
Oh là là, OK. Alors, la fonderie Horn de Rouyn-Noranda est en fonction depuis 95 ans. En fait, au départ, c'était une mine. C'est devenu une fonderie au tournant des années 60, fin des années 70. C'est la seule fonderie de cuivre en Amérique du Nord. Et on y, dans le fond, on y fond des métaux, des résidus de mines. On transforme ça en anodes de cuivre. Donc, c'est les opérations qui sont faites à Rouyn-Noranda. Et comme la ville s'est un peu construite autour de la fonderie, les premières maisons sont très proches. Le quartier Notre-Dame est vraiment au pied de la fonderie. La fonderie est vraiment au cœur de la ville. On a les deux grandes cheminées éternelles comme l'enfer, comme dirait Richard Desjardins, qui surplombent vraiment l'ensemble de la ville. Et ce qu'on se rend compte, là, depuis plusieurs années, c'est qu'il y a des rejets de métaux lourds dans l'air, dont l'arsenic, qui empoisonnent ni plus ni moins les citoyens de Rouyn-Noranda. On s'est rendu compte en 2019, il y a un rapport de la santé publique régionale qui est sorti qui annonçait dans le fond que les enfants du quartier Notre-Dame avaient 4 fois plus d'arsenic dans leur système que les enfants d'ailleurs en région. Et là, suite à ça, il y a d'autres études qui ont été faites. Et dans les dernières données qu'on a apprises, c'était en mai dernier où on a appris, par exemple, qu'il y avait 30% plus de cancer du poumon à Rouyn-Noranda qu'ailleurs. Les gens dans le quartier Notre-Dame vivent 5 ans de moins qu'ailleurs. Aussi, on a une surreprésentation de bébés qui naissent trop petits dans le quartier Notre-Dame. Vraiment, toutes sortes d'enjeux au niveau de la santé parce que la fonderie a un droit de polluer. Elle a le droit de mettre 33 fois plus d'arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda qu'ailleurs au Québec, où la norme pour l'arsenic, c'est 3 nanogrammes par mètre cube d'air. C'est un peu technique, mais retenons que la fonderie a droit d'émettre 33 fois la norme. Et là, ces permis de polluer là, ça se déroule sur un échéancier de 5 ans. Et là, on arrive à échéance du permis de polluer actuel. Et là, le gouvernement du Québec, la CAQ, nous a annoncé aujourd'hui la prochaine cible à atteindre pour la fonderie pour réduire ses émissions d'arsenic.
OK. Est-ce que c'est un cas classique de oui, on pollue l'environnement, oui, on tue des gens à petit feu, mais on a des jobs?
Ben, en ce moment, c'est bien sûr, c'est le discours de l'entreprise, c'est le discours même de la CAQ parfois de dire ben on met en opposition les jobs à la fonderie et les mesures pour protéger la santé de la population. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en 2022, on n'est plus là, on est capable de concilier les deux, de faire rouler l'économie, mais d'arrêter d'empoisonner notre monde, puis de faire en sorte que nos enfants naissent trop petits. Ça n'a pas d'allure.
Mais Madame la députée, si on fait brûler de l'arsenic, là, c'est une fonderie. Là, ça me semble un peu difficile de ne pas polluer autour, non?
Oui, ben c'est là que c'est intéressant de se préoccuper d'où vient cet arsenic-là. Et cet arsenic-là, c'est les poussières, c'est les émissions fugitives qu'on appelle. Donc, sur le territoire du site de la fonderie, ben on a des convois de train qui arrivent pleins remplis de minerais qui sont intoxiqués à l'arsenic. Là, quand on débarque le minerai pour mettre ça dans des wagons, pour les entreposer dans des espèces de gros silos, ben on bardasse la roche, ça fait de la poussière est transportée par le vent dans le quartier, dans les autres quartiers avoisinants autour de Rouyn-Noranda. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour contrôler ces poussières-là à la source, pour pas qu'elles se retrouvent dans l'air de Rouyn-Noranda, mais ça, ça coûte des sous. Ça coûte des sous de faire du transbordement sous couvert, de paver les chemins, d'améliorer la ventilation sur le site de la fonderie. Et ben la fonderie semble pas prête à mettre la main dans sa poche parce que elle, ce qu'elle dit, c'est écoutez, moi, je suis 100% légale. Le gouvernement du Québec m'autorise à émettre 33 fois plus d'arsenic dans l'air. Je respecte ce 33 fois plus d'arsenic-là. Pourquoi je serais plus catholique que le pape, au fond? Et c'est la CAQ et les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans, 40 ans, qui ont juste été beaucoup trop laxistes, qui se sont couchés à plat ventre devant l'entreprise, puis qui ont dit, écoutez, nous, on veut pas être trop exigeants avec vous, vous donnez des jobs, vous rapportez au PIB, ben faites un peu ce que vous pouvez faire. On n'a jamais été contraignants, et c'est ça qui est problématique, parce que ça rend nos gens malades.
Le problème n'est pas né avec la CAQ, Émilie Lessard-Terrien, ça fait longtemps qu'on le sait, mais depuis quand est-ce qu'on sait dans la région, depuis quand est-ce qu'on a quantifié qu'il y a des effets vérifiables sur la santé humaine?
Ben déjà dès 2004, les autorités de santé publique ici levaient le drapeau rouge en disant écoutez, il y a trop d'arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir une cible à 10 nanogrammes en 18 mois pour atteindre à l'intérieur le plus rapidement possible le 3 nanogrammes qui est la norme pour lequel il y a un consensus scientifique qui est considéré comme sécuritaire pour la population. Dès 2004, on avait une recommandation de cette nature-là. C'était les libéraux qui étaient au pouvoir et ils ont plutôt négocié une norme à l'époque à 200 nanogrammes, 67 fois la norme québécoise. Elle a été en vigueur pendant 20 ans. C'est problématique. Et pendant ces 20 années-là, ben on a des gens qui se sont rendus malades. On a des enfants des bébés qui sont nés trop petits. On a des enfants qui ont perdu des points de QI. Et là, le gouvernement la CAQ aurait le pouvoir de dire, OK, c'est terminé. On met un terme à ce chaos-là, à ces enjeux-là au niveau de la santé. Ils auraient pu le faire. Ils ont pas fait. Ils ont échoué. Et c'est pour ça que nous, Québec solidaire, on dit, on va régler le problème à l'intérieur d'un premier mandat. Nous allons exiger la norme québécoise à l'intérieur d'un premier mandat solidaire.
OK, vous l'avez dit, là, la fonderie existe, Madame la députée, depuis 95 ans. Il y a 95 ans, vous étiez pas là, moi non plus, là, mais vous connaissez mieux la région que moi. Est-ce qu'il y avait le quartier Notre-Dame, est-ce qu'il était bâti autour ou ça s'est fait après?
Ça s'est fait après. En fait, la ville de Rouyn-Noranda est assez jeune. On va souligner le 100e anniversaire de la ville en 2026. Donc, la fonderie, c'était d'abord un gisement de cuivre qui était là, un gisement de cuivre ou d'or, là, mais bref, il y avait une mine qui était là souterraine et éventuellement la ville s'est construit un peu autour de la mine pour bon loger les travailleurs tout ça. On était dans les années 30. Éventuellement, quand le gisement minier a été épuisé, ça s'est transformé en fonderie. Puis cette fonderie-là qui appartient au complexe de la multinationale multimilliardaire Glencore, parce qu'il faut pas perdre ça de vue là. Cette fonderie-là, elle appartient à une multinationale suisse qui a remis 8,5 milliards de dollars dans les poches de ses actionnaires depuis le début de l'année 2022. Elle a clairement les moyens d'investir dans son entreprise pour faire en sorte que la santé des gens de Rouyn-Noranda est priorisée.
Quand je vous pose la question sur le quartier, puis comprenez-moi bien, là, je vais pas pleurer sur le sort de Glencore. Là. Glencore, vous l'avez dit, c'est une multinationale qui fait beaucoup d'argent, aurait sans doute les moyens de mettre sa fonderie Horn aux normes, de la rendre moins polluante, mais d'aller, puis je sais que ça s'est pas fait récemment, là, mais d'aller construire un quartier résidentiel autour de cette fonderie-là, c'est peut-être une erreur historique aussi d'avoir permis ça.
Ben, c'est peut-être une erreur historique, mais moi, je suis pas là pour regarder en arrière. Moi, je suis là pour regarder en avant. Puis à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a les données, maintenant qu'on sait que les technologies existent, maintenant qu'on a identifié les problèmes, ben, qu'est-ce qu'on fait pour régler la situation? Puis c'est pas en permettant à la fonderie de continuer d'émettre autant de polluants dans l'air, puis de faire en sorte que la qualité de l'air à Rouyn-Noranda est pire qu'ailleurs au Québec, qu'on va s'en sortir. Et ce qu'il faut faire, c'est de sortir les dents, c'est de mettre cette multinationale-là au pas, puis les trois derniers partis qui se sont succédés au pouvoir ont échoué à mettre cette multinationale-là au pas. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des familles qui sont super inquiètes, qui parlent de déménager. Ça fait des parents qui vivent une culpabilité sans nom parce qu'ils ont mis au monde des enfants dans le quartier Notre-Dame et qui se posent les questions si c'est à cause de ça que leurs enfants ont des enjeux au niveau de leur scolarité, ont des enjeux de santé. Moi, il y a des gens ici qui m'arrêtent partout à Rouyn-Noranda pour me dire qui habitaient dans les verts dominants, que les parents, que les frères, les sœurs sont décédés de cancer, il y a un traumatisme en ce moment dans la population de Rouyn-Noranda, des inquiétudes qui ne sont pas répondues, notamment par l'inaction politique à répondre à cette crise-là de manière adéquate.
Vous êtes montée au créneau depuis longtemps sur cet enjeu-là, Émilie Lessard Lessard-Terrien. Il y a une élection qui s'en vient. Si la CAQ gagne, et on prévoit plus de sièges à la CAQ, c'est un peu un désaveu de votre combat et de celui des gens là, qui se plaignent de la fonderie Horn, non?
Ben, on jugera les résultats le 3 octobre. Quand je me promène dans la rue, bien sûr, on est conscient des sondages, mais en même temps, le pouls en ce moment dans la rue, moi, les gens partout m'arrêtent pour me remercier pour mon travail. Il y a beaucoup d'anciens travailleurs de la fonderie Horn qui viennent me voir pour me remercier puis pour m'encourager à poursuivre la pour dénoncer les comportements complètement inadéquats de cette multinationale-là. Moi, les gens partout sont extrêmement contents et je porte le combat de ces gens-là aussi. Là, je suis pas toute seule là-dedans. Il y a des citoyens extrêmement mobilisés et de plus en plus mobilisés, des citoyens, mais non seulement les citoyens, des médecins qui sont aussi sortis sur la place publique. Il y a un combat collectif qui est en train de se mener ici à Rouyn-Noranda pour dire que nous, là, on veut plus se faire empoisonner par une multinationale comme ça.
Les hauts dirigeants de Glencore en Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'ils habitent dans le quartier Notre-Dame?
Ah, mais il n'y a aucun haut dirigeant de Glencore qui habite, ne serait-ce qu'à Rouyn-Noranda. Pour ça que je veux dire, cette situation-là arriverait pas en Suisse où la multinationale est basée. Cette situation-là arriverait non plus à Westmount, à Montréal ou dans des quartiers de gens bien nantis ou qui, tu sais, je veux dire, ça se passe ici à Rouyn-Noranda parce que les gens ont l'impression qu'on est des citoyens de seconde zone. Pas les gens, mais les autorités ont l'impression qu'on est des citoyens de seconde zone. Et ça, c'est inacceptable en 2022.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame la députée.
Ça me fait grand plaisir. Bon après-midi.
Vous aussi. Émilie Lessard-Terrien, députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue pour Québec solidaire.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Ce qui n'a pas pris de vacances cet été, ce sont les jeunes impliqués dans des fusillades. On le sait, il y a prolifération des armes à feu à Montréal. C'est pas un problème montréalais. On le constate un peu partout en Amérique du Nord. Ce qui est nouveau au Canada, c'est que l'accès aux armes n'est pas aussi facile qu'aux États-Unis. Mais là, semble qu'il y a des canaux d'exportation en provenance des États-Unis qui fait que si vous voulez vous trouver une arme à feu à Montréal et même hors de Montréal, c'est, semble-t-il, pas aussi compliqué que ça l'était. Et ça se traduit, on le voit avec le nombre de coups de feu qui se tirent depuis un an et demi, deux ans. L'été qui est en train de s'achever fait pas exception. La semaine dernière, pas moins de 80 coups de feu ont été tirés à Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord en seulement 24 heures. On va parler de tout ça avec Christine Black, mairesse de Montréal-Nord pour Ensemble Montréal. Madame Black, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Juste avant qu'on commence l'entrevue, on va écouter un extrait de notre collaborateur au sport, Jérémy Filosa, qui est un résident de votre arrondissement à Montréal-Nord. Il nous confiait ça il y a quelques instants.
C'est le seul sujet de discussion dans le quartier. Tu sors dehors, là, tu vois tes voisins, c'est juste de ça que les gens parlent. Et la majorité sont là depuis très, très, très longtemps. Et là, tout d'un coup, tout le monde songe à, ben, on s'en va-tu dans le West Island, tu sais, où il y a un paquet d'autres Italiens là-bas, on va se sentir chez nous là-bas aussi, mais ça va être moins dangereux pour nos enfants.
Est-ce que les gens de Montréal-Nord vous disent qu'ils songent à quitter?
En fait, les gens de Montréal-Nord, ce qu'ils me disent en ce moment, surtout, c'est qu'ils sont très préoccupés par tout ce qui se passe, sont inquiets, ils ont peur de sortir le soir. C'est surtout ce qui ressort actuellement, je vous dirais.
Mais est-ce que vous avez des témoignages de gens qui disent « moi, je songe à déménager »?
Bon, à part M. Filosa, parce que j'ai eu l'occasion de lui parler aujourd'hui, pas pour le moment, mais ressent énormément d'inquiétude. Ça, c'est très, très clair, c'est palpable. Et en ce moment, il l'a très bien dit dans l'extrait que vous avez démontré, que c'est le sujet de l'heure. Là, tout le monde parle de ça et me disent qu'est-ce qui se passe? On reconnaît pas notre quartier, on comprend pas. Et même quand je vous dis ça, c'est pas juste des adultes, des jeunes adultes aussi, qui étaient amis, entre autres, avec Jason, le jeune qui est décédé la semaine dernière, me disait exactement la même chose. On a peur maintenant.
OK, parlez-moi justement, on dit ça comme ça, là, 80 projectiles qui ont été tirés en 24 heures dans votre quartier et aussi à Rivière-des-Prairies. Je veux pas dire que ça reste abstrait, mais quand on met des visages, quand on met des noms, quand on met des histoires personnelles sur ces événements-là, ben ça prend une autre tournure. Parlez-moi de Jason Collin, 26 ans, qui est mort, qui a été tiré à bout portant. C'était pas quelqu'un qui trempait dans la criminalité, pas du tout, au contraire. Qu'est-ce qu'on sait de cet événement-là et qu'est-ce qu'on sait de ce jeune homme-là?
En fait, comme vous le dites, effectivement, c'est un beau jeune de Montréal-Nord. Je l'ai dit la semaine passée à plusieurs reprises. On en a des beaux jeunes dans notre quartier. Et Jason en était un. Ses parents, en fait, sa mère était intervenante dans un HLM, en fait, pendant de nombreuses années. Et son beau-père est travailleur de rue ici à Montréal-Nord. Donc, c'est vraiment hallucinant comme situation où les deux parents travaillent justement pour aider les jeunes du quartier à s'en sortir et à pouvoir justement avoir d'autres chemins que celui de la criminalité et qui malheureusement perdent leur garçon comme ça. Jason participait à plusieurs activités, entre autres avec la CEDEC de Montréal-Nord. Lui, ce qu'il voulait, c'est un gars qui tripait sur le hockey. Alors, il voulait se partir un organisme justement pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès au hockey. Alors, un beau jeune qui était à la fleur de l'âge, qui n'était pas du tout impliqué dans ces histoires de criminalité et puis qui malheureusement est décédé, comme vous le dites, de façon épouvantable, criblé de balles à côté d'une école secondaire. Là.
Et est-ce que, écoutez, je sais, l'enquête est en cours, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça ressemble quand même à un cas de scoring, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des gangs là qui tirent des étrangers comme ça au hasard pour gagner des points, disons, dans leurs organisations.
Bon, dans ce cas-ci, comme vous le dites, l'enquête est toujours en cours. Moi, j'ai pas tous les détails. Est-ce que c'est du scoring? Est-ce que c'est une erreur sur la personne? Bon, il y a toutes les hypothèses sont actuellement sur la table. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le service de police est très actif dans l'enquête et a été très présent sur le terrain. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler à plusieurs reprises avec la commandante qui est là de garde. Et on voit vraiment qu'ils sont très présents. Et je tiens d'ailleurs à souligner tout le travail du service de police, des policiers qui sont sur le terrain, parce qu'on va se le dire, les conditions actuellement de travail sont particulièrement difficiles à Montréal.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, vous savez que quand on intervient dans différents quartiers, que c'est plus calme ou que là on est dans un contexte où on parle d'armes à feu, on parle de coups de feu, on n'est pas dans un contexte qui est simple là, et en même temps, les policiers sont des êtres humains. Donc c'est certain que quand ils arrivent sur des lieux d'incidents et qu'il y a des personnes qui meurent comme ça gratuitement, je m'imagine très 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 facilement que c'est très difficile pour eux de vivre ça là. Répétition à chaque jour.
Est-ce que vous avez des échos des policiers sur, disons, ce dont ils auraient besoin pour endiguer ces tragédies-là?
Ben, en fait, vous savez, à l'opposition, on en a parlé amplement là, dans les derniers mois. Là, entre autres, pour rétablir les effectifs au service de police. Là, en ce moment, on parle d'environ 377 policiers qui sont manquants. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui quittent, ils sont pas remplacés. Alors, par la force des choses, ça donne l'impression qu'il y a un certain définancement, mais par la porte d'en arrière. Donc, on dit non. Fait que c'est sûr que ça, le rétablir les effectifs, c'est fort important. Aussi, je vous ajouterais que ce qui est important aussi en ce moment, c'est l'information. Hein. L'information, c'est le nerf de la guerre. Quand ils font des enquêtes, c'est important qu'ils puissent savoir ce qui s'est passé, qu'ils aient accès aux caméras, qu'ils aient accès aux informations. Des fois, des petites informations peuvent faire toute la différence. Et les citoyens qui ne souhaitent pas appeler directement le service de police peuvent transmettre ces informations-là par, entre autres, le service Infocrime, qui est un service confidentiel et qui permet justement de pouvoir transmettre les informations. Parce que moi, ce qui me préoccupe en ce moment, M. Lagacé, c'est que là, on devient comme tous un peu terrorisés par ce qui se passe. En même temps, les citoyens, là, on est dans nos quartiers, on a le droit d'être dans nos quartiers, on a le droit d'avoir de la quiétude, qu'on soit à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies ou dans l'ouest de l'île. Tout le monde à Montréal a le droit à sa quiétude. Et là, en ce moment, c'est ça qui est ébranlé, c'est ça qui est inquiétant.
Mais quand vous évoquez comme ça la collaboration des citoyens, est-ce que vous me soulignez ça parce qu'il y a des citoyens qui ont peur de parler à la police ou qui ne veulent pas parler à la police?
Bien, certains sont craintifs, absolument. Absolument, parce que les gens se connaissent, les gens se reconnaissent dans la rue, dans les quartiers. Alors, à certains moments, ils ont peur, ils hésitent, ils ont peur de représailles ou autre. Alors, faut casser ce cercle-là, ce cycle vicieux-là, et faire en sorte que l'information puisse être donnée pour qu'on puisse justement résoudre les enquêtes, là.
Pensez-vous qu'on est rentré dans une nouvelle normalité où Montréal, comme d'autres villes nord-américaines, ben, va vivre des fusillades comme ça de façon régulière?
J'espère sincèrement que non. Et pour moi, il y a un travail qui doit être fait.
Mais au-delà des espérances, pensez-vous qu'on est là?
Oh, je veux pas y croire. Je veux pas y croire vraiment, M. Lagacé, parce que pour moi, c'est des phénomènes, oui, qui sont nouveaux, mais en même temps, Montréal était, il y avait une quiétude à Montréal il y a quelques années. Là, c'est très récent, ces phénomènes-là. Et pour moi, il y a quelque chose qui se passe au-delà de ça, que ce soit entre autres par tout le travail avec l'administration Plante d'ailleurs, qui, je pense pas qu'ils ont le même sentiment d'urgence que nous, on a à Montréal-Nord en ce moment. Et puis, c'est ce qui se démontre d'ailleurs sur le terrain, là.
Merci, Mme Black.
Merci.
Christine Black, mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Juste une dernière fois, pour jamais l'oublier, j'aimerais sentir si fort le pouls de ta tendresse. S'il te plaît, que je reste pour une dernière fois.
Pendant 3 ans, vous avez pu entendre le pouls de sa tendresse à 17h05 à cette émission. Luc Ferrandez, qui est arrivé en onde en même temps que j'ai pris la barre de cette émission, va prendre la barre de la sienne dès la semaine prochaine. Salut Luc!
Salut Patrick, salut tout le monde.
J'ai pensé t'inviter une dernière fois.
Avec cette belle musique, là.
Ben
wow,
oui, absolument, absolument. Beau, écoute.
Est-ce que ça te touche?
Oui, vraiment, vraiment, beaucoup, 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 beaucoup.
Mais Luc, écoute, t'es une drôle de bébite. Puis je voulais t'inviter, on va faire une sorte de post-mortem là, de tes 3 premières années post-politique. Moi, je t'avais déjà dit, OK, je voici un petit inside, comme on dit. Je te connaissais, on n'était pas des amis, mais on se côtoyait parce que, à cause de ma job, on avait fait des entrevues. Puis un jour, on s'est croisé, puis je t'ai dit, bon, ça fait longtemps que t'es en politique. Quand tu voudras plus être en politique, fais-moi signe. Dis-moi là, puis j'aurais peut-être des idées pour toi. C'était pas annoncé à l'époque là que j'allais faire cette émission-là, mais j'avais une petite idée que peut-être ça s'en venait. Et là, un moment donné, on t'a pris une bière, t'as dit c'est fini, je m'en vais. Là, j'ai dit bouge pas toi. Mais ce que je savais pas, c'est que Paul Arcand avait fait le même move que moi. Et il voulait recruter.
À quelques heures de différence.
Il voulait recruter Luc. Et là, j'ai dit au patron, j'ai dit écoutez, Luc pourrait très bien être le matin et dans mon émission. On a dit oui. Moi, je savais que t'étais un gars plein de surprises, que t'étais pas juste un communiste à pédale. Et je savais que t'allais étonner l'auditoire et je te remercie d'avoir fait ça pendant 3 ans.
Ben, merci infiniment d'avoir donné le micro. Moi, je savais pas que j'étais capable. Parce que j'étais...
T'es un gars qui doute quand même.
Oui, mais j'étais réputé au conseil de ville pour ne jamais vouloir prendre la parole si je connais pas le dossier, je connaissais pas le dossier.
T'as pas fait un doctorat sur le sujet.
Exactement. Inside and out, là, comme genre... je connaissais les noms de chacun des professionnels au dossier. Je leur avais téléphoné avant. Puis là, tu me dis, je vais prendre 10 minutes la parole 2 fois par jour. Ben, en fait, le matin, c'est 2 fois. Ouais, donc, 3 fois par jour, j'y arrivais pas à comprendre ça. Et d'ailleurs, ça m'a pris 1 an à m'en remettre parce que j'étudiais mes dossiers 4 heures par jour. Fait que 4 heures fois 3 chroniques, ça fait 12 heures. Et en fait, c'est toi qui me dis à un moment donné, lâche un petit peu, là. Slack la poulie.
OK.
Slack la poulie.
Puisque tu ouvres la porte, je vais raconter ça. Première saison, un moment donné dans la saison, là. Je pense qu'on était rendu peut-être à la fin de l'hiver 2020. Non, pas vrai. Avant ça, parce qu'on n'était pas encore en pandémie. Mais on n'était pas loin de ça. Fait que là, j'invite Luc à souper parce que je veux faire le point. Comment ça va? Tu sais, comment tu te sens, etc. Là, il me dit, parce que des fois, OK, l'anecdote, c'est, on l'appelait l'après-midi pour savoir c'est quoi ses sujets. Il répondait pas 1 fois sur 2. Puis quand il répondait, on lui demandait, t'étais où? Et là, il disait, ben, je dormais, je faisais une sieste. Puis là, j'ai dit, coudonc, c'est quoi toutes ces siestes-là? Fait que là, il me dit, mais il dit, je suis fatigué, épuisé. Il dit, c'est beaucoup de job. Là, je l'écoute, l'empathie. Et je finis par comprendre qu'il se lève à 4 heures du matin, ce fou-là. 4 heures? 4 heures et demie?
Oh, ouais, 4 heures.
Pour préparer la commission le matin chez Paul Arcand. Là, je dis, Luc, voyons, arrête de faire un doctorat sur chaque sujet. J'ai dit, Christy, si tu te lèves à cette heure-là, va animer le show tant qu'à ça, tu sais. Et là, je pense que ça t'a calmé un peu, mais ça montre à quel point t'as, je veux pas dire une insécurité, mais une certaine volonté de bien bien faire les choses.
Ben oui, parce que tu sais, comme je te disais tantôt, c'est un privilège. Puis toi, tu le sais, t'écris depuis des années dans divers journaux, la presse, etc. Puis moi, je voulais pas venir ici répéter ce que tout le monde a dit avant. Là, c'était pas ça du tout mon intention. Moi, je me disais, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Puis moi, ma valeur ajoutée, je le voyais dans l'approfondissement. Puis souvent une autre chose aussi. J'ai souvent des positions surprenantes. Tu sais, moi, je dis par exemple.
C'est ta force, là.
Ben, tu sais, je dis, il faut taxer plus. Puis, c'est pas vrai que les Québécois sont pauvres. Puis, c'est pas vrai que l'État a pris de l'argent dans vos poches. Puis, regardez dehors le nombre de.
Mais c'est pas tout de dire, non. Faut que tu l'appuies,
voilà.
Puis tu le défends.
Voilà.
Puis,
Luc, mais quand c'est. Quand tu dis ça, faut que tu appuies.
C'est là-dessus, tu comprends-tu, les gens qui t'ont suivi sont pas surpris, mais il y a certains enjeux. Je pense que t'es un gars de centre-gauche, mais il y a certains enjeux où t'es à droite. Il y a certaines phrases que t'as prononcées à cette émission que Stephen Harper n'aurait pas renié.
Law and order.
Oui. Moi, là-dessus, là, t'es oui.
Ouais. Moi, j'y crois beaucoup à l'ordre et la loi parce que j'ai déjà géré quelque chose, tu sais. À petite échelle, mais un quartier où il se passe beaucoup de choses, tu sais. Récemment, il y avait quelqu'un qui me disait, cette semaine, à trois reprises, des gens qui œuvrent dans les parcs, par exemple, un petit kiosque, des cours de tango, ils disaient, écoute, la maladie mentale a beaucoup augmenté à Montréal. Le nombre de fois où je me fais agresser a été multiplié par 10 dans la dernière année. J'ai jamais vu ça. La police n'intervient plus d'ailleurs parce que ils ont des nouvelles directives aussi sur où ils doivent mettre leurs ressources. Et moi, tu vois, ce genre de choses-là, d'informations-là, moi, ça m'inquiète. Là, la base de la société, c'est la sécurité. Après ça, il y a le bruit, les nuisances, la pollution, la qualité de l'air, le verdissement.
C'est un état.
L'essence unique.
Après, t'as les sens, mais ça fait partie aussi de la sécurité, là, mais après, t'as l'essence unique. Mais tout ça, donc, moi, je sais comment c'est fragile, une ville. Une ville, c'est pas une ville, un état. Ce n'est pas stable une fois pour tout. Ce n'est pas stable une fois pour toutes. Quand je faisais de la politique, là, je montrais des photos de Central Park. Excuse-moi, je parle beaucoup.
C'est le sujet de l'entrevue, mon gars.
Okay. Enfin, tu fasses 3 heures, là, lundi.
C'est vrai. Je montrais des photos de Central Park aux gens. Tu sais. Puis c'était un champ. C'était un champ Central Park. Il y avait des chèvres. Puis il y avait des cabanes dedans. Puis je disais, ça, là, ça, c'est 60 ans après son ouverture. Donc, 60 ans après l'ouverture de Central Park, Central Park était rasé. Il n'y en avait plus. Après avoir planté 3 millions d'arbres et d'arbustes et des... Il n'y en avait plus. Parce qu'il y a eu, entre-temps, il y a eu la crise économique de 1920, puis là, les gens ont commencé à... Il a commencé à avoir des squatteurs, puis après, des gens qui s'installaient. Il y avait environ 1500 personnes qui habitaient dans Central Park, qui coupaient les arbres pour... Le parc avait disparu. Donc, une ville, c'est pas beau une fois pour toutes. Puis tu le regardes 60 ans plus tard, puis il a repris toute sa grandeur. Mais c'est pas beau une fois pour toutes, c'est pas laid une fois pour toutes. Un État non plus. Pour faire confiance en l'État, faut qu'il y ait des choses qui marchent.
C'est pour ça que t'es aussi strict sur l'importance de la loi puis de l'ordre. Un peu comme, je faisais un parallèle avec Stephen Harper, parce que c'est pas le discours que les auditeurs attendaient de la part d'un gars qui a été faussement décrit comme un communiste.
C'est ça. Il y a des aspects de moi qui sont très socialistes. Et moi, je suis persuadé que chaque fois que t'es privé de la présence des autres, ça augmente tes besoins en ski nautique. C'est que...
Qu'est-ce que vous dites, pardon?
Parce que, imperceptiblement, si on te coupe de la présence des autres, par exemple, parce que la communauté réduit, j'entrais d'ailleurs faire un documentaire là-dessus, parce qu'on se replie sur nos applications, on se replie sur nos maisons, on quitte la ville. Et là, tout à coup, tu sens que ta vie est un petit peu vide. Tu le sens pas.
Tu veux t'acheter des choses.
Tu t'achètes des choses, puis t'en as besoin de plus en plus des choses. Puis si on veut faire le chemin inverse, t'sais, il faut se remettre à la présence des autres. Et ça veut dire beaucoup d'investissements, beaucoup de lois et d'ordre, beaucoup aussi d'investissements dans les plus démunis, beaucoup d'argent pour la santé mentale, beaucoup d'argent, parce que c'est l'essentiel de la violence, c'est lié à de la santé mentale.
Lundi, tu prends la barre d'une nouvelle émission là, à cette antenne, de midi à 3, tu succèdes à Bernard Drinville. Ça va s'appeler comment, ce beau rendez-vous?
Sans réserve.
Sans réserve.
Sans réserve.
Ça te décrit bien.
C'est ça. On roule avec le réservoir vide.
Mais là.
Tu as appelé ça non formaté.
Ouais, ben c'est ça. C'est un peu la même chose.
Mais on va se parler franchement, tu sais. Ouais. Tu t'as confié aux auditeurs, là, comment c'est pas si facile que ça de donner ton opinion. Toi, ça t'a coûté au début. Mais là, animé, c'est une autre paire de manches.
Écoute,
As-tu le vertige?
J'ai pas le vertige, mais je suis persuadé que je serais pas bon avant plusieurs mois. Je suis convaincu de ça, là.
Le département du marketing fait dire de ne pas utiliser cette phrase-là.
Ouais, c'est ça.
Es-tu capable de faire un aller-pause, présenter un invité?
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis, est-ce que tu es capable de faire un aller-pause, présenter un invité? Tu sais, la base.
J'ai pratiqué pendant 3 semaines. Okay. Je l'oubliais tout le temps.
On l'a dit. Deux choses, Luc. On l'a dit à Pierre-Yves. Dans le doute, dis-leur. Ah, il riait bon. De moi. Très payant. Tu sais pas où tu t'en vas, tu dis l'heure.
17h15.
Ton metteur en ordre part la pub, c'est réglé. Deuxième chose, je suis la bitch de l'émission, je vais te poser une question au bitch.
Ouais.
Quand tu m'as dit, on me propose d'animer cette émission-là, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore tes chroniques. Pourquoi? Parce que souvent, t'es pas là où je t'attends. Parce que tu me surprends. Parce que je t'ai des arguments qui viennent un peu du champ gauche. Je me dis, ah, ben, je pensais pas de même, c'est différent. C'est le fun, 7-8 minutes. Mais ma question au bitch est la suivante. Comment tu vas faire pour me faire ça durant 3 heures tous les jours?
Impossible. C'est impossible. C'est un autre métier.
Fait que là, comment tu me vends ton émission?
Ben, regarde. Tu sais, la chronique, là, t'approfondis ton truc, ta prise de position, tu la défends, tu l'appuies sur des chiffres, tu l'appuies sur des expériences.
Puis là, tu punches.
Tu peux pas faire ça dans une entrevue. Non. Dans une entrevue, c'est t'interviews l'autre. Fait que là, tu veux savoir. Donc, la vérité, elle sort pas de ta bouche. Fait que c'est un échange. Et peut-être que dans cet échange-là, c'est moins percutant. Parce que l'autre, il pense pas comme toi, mais justement, la vérité apparaît au fil de cet échange-là. Donc, c'est pas du tout la même chose. Moi, ça va être un métier à maîtriser.
OK. Mais en tout cas, Luc et Luc, j'ai hâte d'entendre ça.
Avec Luc Lavoie.
Ça va brasser.
Tu sais que...
Deux voix de mâle alpha ensemble.
Ouais, puis Luc est comme 3 octaves en bas de tout le monde.
Est-ce que le nom du segment va être Luc et Luc?
Ben, c'est ce que plusieurs personnes ont proposé à la suite de Guillaume Lepage qui l'a écrit sur un message.
C'est une très bonne idée. Ouais.
La patronne vient de parler dans mon oreille de la régie et oui, le segment va s'appeler Luc et Luc.
Ouais, ben, ça va être le fun, vraiment.
J'ai hâte de t'entendre avec Luc Lavoie.
Je m'en vais manger avec lui, là.
Okay. Là?
Ouais, okay. Suite après.
Qui paye?
C'est lui. Il sait pas, je viens de l'annoncer. Non, non, c'est pas vrai.
Patronne vient nous dire que c'est la station qui paye votre lunch.
Ah ouais,
ça va finir ensemble.
Super. Allez juste pas au toqué, OK?
Non, non, non.
Fais comme la première fois où on a mangé pour une entrevue. Luc m'a donné rendez-vous au Schwartz.
Ah oui,
puis
c'est vrai.
Quand j'ai voulu payer le sandwich à 8,5$, il a dit non, je suis pas achetable. Il a dit bon, j'avais pas l'intention de t'acheter, mais tu payeras d'abord. Luc, une des choses que j'ai souvent entendu à ton propos à ce micro là, parce que les gens au début quand t'es arrivé, je te dis, il y avait des gens qui doutaient. C'est lui, je l'haïssais quand il était le maire du plateau, mais mon Dieu que je l'aime. C'est-tu plus facile d'être dans les médias ou dans la politique?
Les médias, c'est fou, là. C'est incroyable. Il n'y a pas de différence possible. Hey, mettons que tu achètes un frigidaire qui ne marche pas, OK? Puis là, tu vois passer le gars qui vend un frigidaire de l'autre bord de la rue. Tu y sautes pas dessus en disant, moi, t'étouffé, mon maudit. Tu dis pas, hey, toi, t'es une poubelle, t'es une vidange. Tu dis non, je vais aller au service à clientèle, puis je vais dire, le frigidaire ne marche pas. Mais en politique, c'est le même. Quand, surtout moi qui me promène dans la rue en vélo tout le temps dans mon quartier.
Ça, mets un casque, le monde va moins te reconnaître.
Oui, comme tu te disais tantôt, j'ai un casque de poêle, mais il s'en prendrait peut-être en plastique. Mais la personne hésite pas, là, à travers la rue. Ben, en tout cas, là, votre affaire, moi, je suis pas content de vous voir, mais en même temps, je vais vous en dire 2-3. Ben, tu sais, comme, la politique, là, c'est dans ta face, là, tu sais, c'est comme, et surtout la politique de municipale. Parce que, tu sais, tu changes le règlement sur, l'obligation d'envoyer les enfants à l'école à partir d'une certaine année, là. Le lendemain matin, il n'y a pas 46 personnes qui sont fâchées, mais il y a du monde qui critique. Mais si tu changes le sens de la rue, par exemple, ou la poubelle, ou je sais pas quoi. Donc, la politique municipale, infiniment plus dure que la radio. La radio a d'autres difficultés.
Fait que tu te fais moins crier après depuis que tu es à notre antenne.
Et on me dit à l'oreille que c'est plus payant.
On te dit à l'oreille. Et que oui. C'est un sacrifice, la politique. C'est un sacrifice sous toutes ses formes. Tu sais, Legault, là, on a beau y faire toutes sortes de critiques, il gagnerait 5 fois son salaire s'il faisait pas de politique.
Luc, merci. L'émission s'appelle Sans réserve. Ça commence lundi prochain.
Patrick, merci à toi. Merci à toi de m'avoir lancé dans le domaine, de m'avoir hameçonné, puis de m'avoir soutenu, puis de m'avoir formé. Parce que c'est vrai que ça fait ça pendant plus de souvent.
C'est un excellent capitaine, il le fait avec tout le monde.
C'est pas un festival de l'amour ici. Luc, merci. Bonne chance. Ça a été un plaisir de te parler pendant 3 ans. Je m'ennuie déjà de toi.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.